Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de cinématique des plaques. Alors, essentiellement, dans une optique qui est celle, bien sûr, de ce thème hein, de la convergence. Alors, quelques idées directrices autour desquelles je vais donc articuler un petit peu cet exposé. La première, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup insister. Vous allez voir sur le caractère prédictif, en fait, de l'approche cinématique, donc de la tectonique des plaques. Vous verrez, je ferai un petit distinguo entre cinématique et tectonique des plaques. Ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, je vais essayer de vous montrer que dans les zones de convergence, eh bien, les modèles cinématiques qu'on a pu mettre au point, c'est quelque chose qui, en fait, sert principalement à prédire des mouvements dont on connaît certaines caractéristiques, mais pas toutes. Vous verrez également, ça sera dans un deuxième temps, que ces prédictions, en fait, sont pour partie vérifiées, pour partie infirmées par des mesures que l'on fait maintenant à partir de techniques de géodésie spatiale. On a des mesures directes des déplacements en zone de convergence et on verra qu'il y a un bon accord, mais que cet accord n'est pas systématique. Et donc, on s'interrogera un petit peu sur les raisons de ces écarts, de ces différences. Et enfin, je terminerai pour ouvrir un petit peu sur un aspect un petit peu plus dynamique. Hein, cinématique, c'est les mouvements, dynamique, c'est les forces. Et montrer que la cinématique, ça permet quand même d'aborder un peu aussi des problèmes de dynamique. Alors, je vais être obligé quand même de faire ce qui est, mais peut-être pas forcément des rappels de cinématique. Donc, on va partir sur quelques principes. Alors, des points clés. Donc, là, c'est un peu de la sémantique, mais la distinction que j'ai mis en italique, cinématique et tectonique des plaques. La cinématique des plaques, c'est simplement donc l'aspect descriptif des mouvements. Hein, et à ne pas confondre, on a parfois tendance un petit peu à confondre avec la tectonique des plaques, qui est, lui, le paradigme qui inclut un certain nombre de processus, dont l'accrétion océanique, la convergence, la subduction, etc. Hein, la cinématique, en fait, c'est simplement, hein, au sens étymologique du terme, la description, la quantification des mouvements à la surface de la Terre. Hein. Donc, on va voir comment on peut quantifier ces mouvements. Hein. Alors, on va voir que c'est basé sur un modèle mathématique assez simple, mais qui suppose quand même des hypothèses. Et on va voir que ces hypothèses, elles sont parfois testables, parfois un peu plus difficiles à tester. Alors, l'hypothèse fondamentale de plaques rigides, ça vous verrez qu'on va beaucoup en parler. Et l'hypothèse également que, bah, pour regarder comment se font les mouvements relatifs, qu'on regarde ça sur les frontières entre les plaques, hein, et qu'on est parfois obligé de supposer comme étroites. On verra que ce n'est évidemment pas le cas, donc ça pose un certain nombre de problèmes. On verra également que tout ce que je vais appeler les modèles cinématiques classiques, hein, quand je vais dire classique, c'est avant la géodésie spatiale, en gros, hein, pour simplifier les affaires. Toute cette cinématique, elle est basée sur des données principalement océaniques. Hein. On verra que c'est basé sur des taux d'ouverture sur les dorsales océaniques, hein, ça vous connaissez ça, elle est basée sur des directions de failles transformantes, elle est basée sur des directions de mouvement données par des séismes. Tout ça, c'est principalement des données qui nous viennent de l'océan. Et on verra que la géodésie spatiale, au contraire, sont des données qui viennent du continent, parce que bah, on met les stations de mesure là où on a les pieds au sec, on ne les met pas dans l'eau. Donc, on verra qu'on a en fait un changement, non seulement en termes d'échelle de temps, la géodésie va nous permettre donc de mesurer donc ces mesures directes, hein, sur quelques années, et non plus, on le verra, sur moyenné sur 2 ou 3 millions d'années, hein, et que par ailleurs, donc, cette cinématique vraiment actuelle, hein, devient continentale, hein, ce qui peut poser quand même, en termes de réflexion, un petit peu des questions sur la comparaison, en fait, entre une approche qui est basée sur des données venant de l'océan et une approche qui est basée sur des données venant du continent. On verra également que ces méthodes permettent de prendre en compte donc, les frontières, hein, de plaques et donc des problèmes de déformation. Donc ça, c'était juste pour mettre en place quelques mots que vous allez entendre très souvent, hein, quantifiés, rigides, océaniques, etc., que vous allez entendre souvent au cours de cet exposé. Alors, les plaques. Bon, on va passer trop de temps à redéfinir ce qu'est une plaque. La manière classique, standard, est tout à fait justifiée de définir Une plaque rigide, bah, c'est à partir de la sismicité. Hein, vous connaissez tous et toutes ces cartes mondiales de sismicité, hein, qui donc montrent ces ceintures, alors plus ou moins étroites. Hein, alors étroites en général au niveau des dorsales océaniques, beaucoup plus larges. Alors au niveau des subductions, ça évidemment, c'est un effet de projection sur la surface du plan incliné, hein, de Wadati Benioff, qu'on voit très bien ici. Et parfois une sismicité beaucoup plus diffuse, hein, correspondant donc à une frontière entre des plaques qui est beaucoup plus large. Donc c'est à partir de cette sismicité qu'on peut définir cette notion de rigidité des plaques. Alors pourquoi ? Il y a des séismes en plein milieu de l'Eurasie, là, je peux en pointer quelques-uns. Mais en termes de quantité de mouvement, les quelques séismes qui se produisent à l'intérieur des plaques peuvent être considérés comme négligeables par rapport aux mouvements qui se produisent le long des frontières. Hein. C'est-à-dire que si on regarde, bon, tous ces séismes sont quoi ? Ça correspond à des mouvements sur des failles. Hein. Donc c'est là où se fait la déformation. Donc dire que l'essentiel de la sismicité se fait sur les frontières de plaques, ça revient à dire que l'essentiel des mouvements se font bien sur les frontières de plaques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séisme à l'intérieur des plaques, ça veut dire que simplement, on emploie souvent le terme de « au premier ordre » ou « en première approximation hein, », les plaques vont être considérées dans tout ce qu'on va faire comme rigides. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se déforment pas un tout petit peu, mais la déformation à l'intérieur des plaques est négligeable par rapport à ce qui se produit sur les frontières. Alors, on présente souvent les cartes de plaques avec justement des frontières qui sont linéaires, hein, enfin pas linéaires, mais qui sont sous la forme d'un trait. Alors moi, je préfère montrer les plaques avec leur nom et des choses comme ça, avec ce genre d'image qui finalement est plus réaliste parce qu'on voit l'épaisseur des frontières de plaques. Hein, j'ai mis du gris là où il y avait des séismes sur la figure précédente. Et on voit très bien, donc bah, on identifie les plaques, hein, bon, la grande plaque Pacifique, etc., on ne va pas toutes les faire, hein. Plaque Nazca, plaque Cocos, donc vous voyez des tailles extrêmement variées, là il doit manquer la flèche pour cette toute petite plaque là, qui est la plaque Rivera. On se rend assez bien compte que finalement on peut découper un petit peu cette lithosphère, hein, la partie superficielle du globe, en à peu près autant de plaques que l'on veut, suivant l'échelle à laquelle on va se placer. Hein. Si l'on s'intéresse à des choses à très grande, enfin, ou très petite échelle, pardon, on peut prendre une Eurasie qui comprend tout ça, ou on peut commencer à les distinguer un bloc Chine du Nord, un bloc Amour, un bloc Chine du Sud, pourquoi pas un petit bloc Tarim, ou des choses comme ça. Hein. Donc, bien voir que notre approche, donc, quand on va regarder donc, les mouvements entre ces différentes plaques, hein, les données qu'on va utiliser, on va avoir beaucoup de mal à utiliser des données dans ces zones de déformation large. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, comme la zone est large, il va falloir intégrer, hein, au sens mathématique du terme, hein, intégrer les déformations qui se produisent sur toute la largeur. Hein. Le mouvement ne se produit pas de manière très localisée comme ce qui se passe sur les dorsales, où là, bon, on prend une faille transformante, on a la direction de mouvement, on est tranquille. On prend, comme on le verra, une vitesse d'ouverture à partir des anomalies magnétiques, on sait qu'on a tout le mouvement. Si on prend une faille dans la zone, par exemple, de collision 1 d'Eurasie, ben on n'a qu'une partie du mouvement. On a la partie qui se passe sur cette faille-là. Donc, il faut intégrer sur toutes les failles. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, bien garder ça à l'esprit, le fait que, en fait, les frontières de plaques, le côté diffus des frontières de plaques rend quand même le travail un peu difficile aux cinématiciens. Alors, donc, les approximations, donc on va rentrer un petit peu plus dans le modèle lui-même, hein, de description des mouvements. Alors, donc, les deux... Oui, alors, je vais... Une approximation, ça qui est rarement cité. On fait l'approximation d'une Terre sphérique. Ce n'est pas tout à fait vrai, hein, puisque la Terre est plus proche quand même d'un ellipsoïde de révolution que d'une sphère. Mais l'aplatissement, on va considérer qu'il est de l'ordre de 1 sur 300, hein, ben, on a toujours considéré qu'il était négligeable. En fait, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que quand on commence à descendre vraiment dans des choses de millimétriques ou inframillimétriques, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que cette approximation est totalement négligeable. Mais bon, parfois, il y a quand même des élèves qui savent que la Terre est un peu aplatie et qui peuvent dire « votre truc, ça ne marche pas, c'est sur une sphère, or la Terre, ce n'est pas une sphère ». Bon, ça marche, là, encore une fois, en première approximation, hein, dans la limite des marges d'erreur. Donc les deux autres approximations qui sont indiquées ici, je vous en ai parlé. Hein, donc qui, alors, enfin non, je vous en ai pas parlé, pardon. Donc infiniment mince. Alors oui, en cinématique des plaques, on s'intéresse aux mouvements horizontaux. Hein, donc on va absolument pas travailler sur tout ce qui est épaississement, amincissement. Hein, on regarde simplement les mouvements horizontaux entre les plaques. Et donc par contre, le troisième, je vous en ai parlé, tous les mouvements relatifs, donc concentrés sur des frontières infiniment minces. Ça, c'est une approximation qui va être nécessaire pour pouvoir traiter le problème, tout simplement. Alors, en cinématique, donc, je vous ai définie comme classique, hein, celle qui vient de l'océan, vous verrez que on ne connaît les mouvements, en fait, que soit en module, soit en direction. Vous verrez que c'est une grosse différence avec la géodésie spatiale où on connaît les deux simultanément. Bon. Je vous le signale au passage. Données essentiellement océaniques, je vous en ai parlé. Et quelque chose sur lequel je reviendrai pour vous montrer pourquoi. Hein. Ce qu'on appelle donc la cinématique actuelle ou instantanée, en fait, c'est une cinématique qui est moyennée sur 3 millions d'années. Je vais donc vous expliquer pourquoi. Et ça a un énorme avantage, c'est que ça permet de traiter mathématiquement le problème de manière assez simple. Hein, tout ce qu'on appelle la cinématique finie ou cinématique passée, hein, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui, ou si ce n'est l'évoquer en conclusion, nécessite un traitement mathématique un petit peu plus compliqué, hein, pour pouvoir traiter le problème. Donc là, je vais en rester à des choses relativement plus faciles à manipuler. Hein. Alors, petit rappel très bref, hein, sur les types de mouvements. Bon, trois types de mouvements entre les plaques, divergent, convergent, en coulissement. Alors, cette image, pour vous montrer que, essentiellement pour vous montrer que les données, en fait, qu'on va utiliser, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, sont fondamentalement hétérogènes. Pourquoi ? Dans les zones de divergence, les dorsales océaniques, on va utiliser des anomalies magnétiques pour avoir les vitesses d'ouverture, moyenné donc sur quelques millions d'années. On va utiliser éventuellement les directions données par les séismes. Pour tout ce qui est coulissement, hein, ou faille transformante, ces zones-là, on va utiliser la morphologie simplement, hein, qui nous donne la direction du mouvement, également les séismes. Et en zone de convergence, il n'y a plus que les séismes. C'est les seules données qui nous indiquent la direction de mouvement, hein, et on n'a pas d'indication sur les vitesses. Vitesse de subduction, on ne sait pas les mesurer, hein, directement. Donc on a affaire à des données qui, suivant le type de frontière de plaque, hein, sont hétérogènes. On a soit la vitesse, on a soit la vitesse et la direction, soit que la direction. D'où, hein, le caractère prédictif que va avoir l'approche cinématique dans les zones de convergence. Alors, pour aller un peu plus vers le modèle. Bon, je pense qu'une bonne manière de prendre les choses, c'est de partir d'un exemple tel que celui-ci, c'est l'océan Atlantique équatorial, où je pense qu'on peut se convaincre assez facilement que les failles transformantes, hein, qui sont toutes ces grandes choses là que vous voyez, donc décaler l'axe de la dorsale que je suis là avec le pointeur, hein, en particulier les plus grandes failles transformantes, hein, la zone de fracture de la Romanche, des choses comme ça, je pense qu'on peut assez facilement se convaincre sur cette carte que ces failles transformantes n'ont pas une géométrie quelconque. Hein. Manifestement, ça a l'air d'être des choses un peu... suivre un peu des cercles. Alors on va voir qu'on va appeler ça des petits cercles. Hein. Vous expliquer de quoi il s'agit. Mais bon, on sent que c'est concentrique de quelque chose. Alors, pour aller plus loin, ce qu'on peut s'amuser à faire, toujours sur cette même zone, hein, l'image précédente, c'était ça. Donc, c'est de dire, voilà, on va prendre toutes nos directions de failles transformantes. Et puis, si ce sont bien des petits cercles, des cercles concentriques d'un même point, hein, ou des cercles autour d'un même axe, normalement, si je prends les perpendiculaires, hein, donc, par exemple, pour cette transformante ici, j'ai dessiné la perpendiculaire, c'est-à-dire cette fois-ci un grand cercle, hein, perpendiculaire à la faille transformante. Si tous ces cercles sont concentriques, donc, les perpendiculaires doivent se couper en un même point. Alors vous voyez que c'est à peu près vrai, hein, aux erreurs près de mesure et aux incertitudes près. Ce qui veut dire qu'effet. Alors donc ça c'est l'observation, hein, c'est les grands cercles donc perpendiculaires aux failles transformantes manifestement se coupent en un même point, hein, ce qu'on interprète donc par le fait que le mouvement est un mouvement de rotation, hein, autour d'un axe, hein, qu'on appelle donc axe de rotation. Hein. Donc le modèle, bon, vous le connaissez bien sûr, hein, mais c'est de là que vient l'idée, hein, donc cette concentricité, je ne sais pas si c'est très français, des directions transformantes par rapport à un axe de rotation. Donc, chose à retenir, donc les failles transformantes sont des petits cercles. Alors, où j'ai employé le terme petit cercle, grand cercle, hein. Un petit cercle, c'est un parallèle. Hein. C'est l'intersection d'une sphère, entre une sphère et un plan, ne passant pas par le centre de la sphère. Un grand cercle, c'est l'intersection entre un plan et une sphère, mais le plan passant par le centre. L'équateur est un cas de grand cercle. Tous les méridiens sont des grands cercles. Alors, en cinématique, on va beaucoup jouer avec ça, avec les grands cercles, les petits cercles. Donc retenez donc que donc les failles transformantes sont des petits cercles, donc suivent des petits cercles autour de l'axe de rotation. Alors ça, c'est la première observation. La deuxième observation concerne maintenant les vitesses. Pour l'instant, on a des directions de mouvement, on va passer aux vitesses. Alors ça vient, les vitesses. Bon, vous connaissez tous l'hypothèse de Wine et Matthews. Tiens, j'en dirai un petit mot, une petite digression d'ailleurs à propos. Bon, ça vient donc de l'observation de l'inéation magnétique sur le fond des océans. Alors, j'aime bien utiliser cette carte parce qu'elle est, bon, elle est un peu historique. Hein. Vous voyez la référence. C'est Raff et Masson en 1961, c'est 2 ans avant Wine et Matthews. Bon, sauf qu'ils n'avaient pas compris comment ça fonctionnait. Mais la carte, ils l'avaient. Hein. Ils avaient là, ce qu'on appelle, on a coutume d'appeler la peau de zèbre océanique. Hein. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc, là, ça a été converti, c'est pas les anomalies magnétiques, ça a été converti en âge de la croûte océanique sur cette figure. Et voyez donc, c'est l'inéation magnétique, parfois un petit peu complexe. Vous voyez, c'est pas toujours très, très bien organisé, mais quand même, ça c'est un assez bel exemple. Et donc, ce sont ces inéations magnétiques, bien sûr, qu'on va utiliser, hein, pour dater la croûte océanique et donc mesurant des distances, eh bien, donc en déduire des vitesses d'ouverture sur les dorsales. Donc ces affaires de mesure vont être basées donc, sur l'existence d'anomalies magnétiques, alors plus ou moins symétriques donc, par rapport à la dorsale, que l'on va mesurer perpendiculairement à l'axe de la dorsale. Alors ça, c'est un point important. Pourquoi quand on regarde une zone comme ça, finalement, à la limite, il faut mieux le faire avec les mains. Une dorsale, je ne sais pas si cette dorsale, elle s'est ouverte comme ça, ou comme ça. Hein, dans les trois cas, ça me donne toujours des linéations magnétiques qui sont du haut vers le bas. Hein. Donc, qu'est-ce qui me donne la direction d'ouverture? Ce sont les failles transformantes, comme celle-ci. Et voyez en l'occurrence que sur cet exemple-là, ce n'est pas tout à fait perpendiculaire. Hein. La direction d'ouverture donnée par la faille transformante n'est pas strictement perpendiculaire. En règle générale, c'est à peu près perpendiculaire, mais pas toujours. Donc attention, quand on mesure une vitesse d'ouverture, c'est toujours une vitesse apparente. Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait en général pour être cohérent, pour ne pas trop s'embêter? C'est qu'on mesure ça. Voilà, je dois avoir un petit truc rouge qui apparaît. Voilà, on va mesurer ça. Hein? Alors, par exemple, cette anomalie ici, hein, correspondant à l'anomalie 2, on en reparlera. Bon, c'est 2 millions d'années par hasard. Hein? Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle 2 que c'est 2 millions d'années. Eh bien, on va mesurer perpendiculairement à l'axe de la dorsale. Donc, non seulement on a une mesure qui est uniquement une mesure de vitesse, mais en plus, c'est une vitesse apparente. Donc, on a vraiment besoin des failles transformantes pour donner les directions. Oui, ça, c'était ma petite parenthèse. Donc, pour la petite histoire, cet article, donc, publié à la Société géologique d'Amérique en 1961, 2 ans avant l'article fondateur. Alors, il y en a toujours un qu'on oublie aussi, j'aurais pu le mettre sur ce transparent, qui est Morlaix, qui la même année, hein, en 63, avait abouti à une interprétation assez très proche de celle de Wine et Matthews, mais l'histoire a retenu Wine et Matthews. C'est un petit peu comme quand on parle du plan de Benioff et qu'on oublie Wadati. Hein. Alors, mesurer une vitesse d'ouverture, eh ben vous avez vu que c'est pas compliqué finalement, enfin pas trop compliqué. Hein, on va essayer de repérer des choses qu'on... Là, c'est vu en profil. Bon, c'est un exemple qui est différent. Là, c'est la dorsale sud-est indienne, peu importe. On va regarder donc un profil Alors, si le profil n'a pas été mesuré perpendiculairement à la dorsale, eh bien, on le rabat perpendiculairement, hein, et on va essayer de repérer des anomalies correspondant donc à des inversions magnétiques, hein, ce qu'on appelle des crons magnétiques. Hein. On confond parfois anomalie et cron. Alors là aussi, ce n'est pas pour faire de la sémantique. Hein. L'anomalie, c'est ça. Hein. L'anomalie, sont des nanotesla, c'est-à-dire l'unité d'un champ, hein, magnétique. C'est la différence entre le champ mesuré et le champ théorique qu'on attendrait à cet endroit-là. Ce qu'on appelle un cron magnétique, hein, c'est la succession, c'est une période de polarité constante. Hein. Donc, le cron, c'est pas très joli comme mot, mais bon, c'est pour ça qu'on dit souvent anomalie, d'ailleurs, je crois, parce que le mot cron n'est pas joli à prononcer. Donc, le cron 2 ou 2A, hein, donc c'est une période, hein, où la polarité reste suivant, là, en l'occurrence, une polarité normale, hein, où l'événement de Jaramillo, c'est ce petit événement de polarité normale. Donc, on prend un pic reconnaissable, on mesure une distance, voilà, par exemple là, 210 km de croûte océanique formée. Depuis, alors là, on a pris le cron 2A, hein, qui est ici, alors ça devrait être à peu près aligné, parce que ces choses-là sont assez bien reconnaissables. Donc depuis 3 millions d'années, une petite division, et on trouve à peu près 66 km par million d'années, c'est-à-dire 66 mm par an, voilà, si vous voulez convertir. Alors vous allez me dire pourquoi, là j'en arrive à mon histoire de pourquoi on mesure les vitesses moyennées sur 3 millions d'années, hein, pour construire des modèles cinématiques globaux. Vous pourriez me dire, effectivement, sur cet exemple, après tout, je pourrais très bien mesurer depuis 1 million d'années. Hein. Si je prends l'événement de Jaramillo, qu'on voit très bien sur ce profil, l'événement de Jaramillo, c'est à peu près 1 million d'années, bon, je peux avoir la vitesse moyenne depuis 1 million d'années, qui est plus proche de l'actuel, de la vitesse actuelle, que celle qui est moyennée a priori sur 3 millions d'années. Alors, la raison de ce choix du cron 2A ou de l'anomalie 2A tient au fait que toutes les dorsales n'ont pas le même signal magnétique. Hein. Ce que je vous ai, la figure précédente vous montrait une dorsale rapide, hein, où on voit bien la succession donc des différents pics magnétique. Plus la dorsale est lente, alors là c'est une figure qui représente donc dorsale rapide, dorsale lente et entre les deux une dorsale intermédiaire, hein. L'axe horizontal c'est le temps, hein. Donc en distance, hein, ceci est à peu près en distance réelle, ceci est à peu près 4 fois plus long, ce profil est 4 fois plus long que celui-ci, hein. C'est-à-dire que cette dorsale ici elle est à peu près 4 fois plus rapide que celle-ci, hein. Je crois que celle-ci c'est du 2 cm par an, celle-ci à peu près 8. Vous voyez que pour des dorsales lentes, eh bien, vous perdez complètement cette finesse du signal magnétique. Pourquoi ? Parce que comme l'ouverture est très lente, eh bien, les anomalies créées donc par ces petites bandes d'inversion ont tendance à coalescer, hein, et à fusionner. Hein, et on se retrouve, au lieu d'avoir ici un pic pour l'événement de Jaramillo, un pic pour la 2 et deux pics, ou voire 3 pour la 2A, on se retrouve avec une infâme patate, pas très... Hein. Donc, pour les dorsales lentes, on est bien obligé de prendre ce qu'on a comme données. Hein. Vous voyez que même la 2, que l'on voit très bien pour les dorsales rapides, que l'on voit encore sur les dorsales intermédiaires, elle est ici, elle est là, là on ne la voit plus. Les dorsales lentes, on ne la voit plus. La première anomalie qu'on voit, c'est l'anomalie 2A. C'est donc... celle qui est à peu près à 3 millions d'années. Et alors, donc, c'est la raison pour laquelle on va faire ce choix de tout mesurer, même sur les dorsales rapides, pour une question d'homogénéité. Parce que le souci, disons, du cinématicien, hein, vous avez vu que les données déjà sont assez hétérogènes comme ça, le souci du cinématicien, c'est que son modèle soit quand même le plus cohérent possible. Hein. Et donc, pour ne pas introduire une distorsion supplémentaire, on a choisi, c'est vrai qu'on aurait pu faire d'autres choix, mais historiquement on a choisi et on continue de mesurer donc des vitesses moyennées sur 3 millions d'années, quelle que soit la vitesse d'ouverture de la dorsale, de manière à ce que les données soient homogènes. Parce que si on se met à mesurer depuis 1 million d'années sur les dorsales rapides et depuis 3 millions d'années sur les dorsales lentes et depuis 2 millions d'années, pourquoi pas, sur les dorsales de vitesse intermédiaire, on risque un petit peu d'introduire des biais, hein, parce qu'on ne sait pas finalement si, enfin on verra, qu'il y a peut-être des accélérations, des décélérations dans les mouvements de plaques. Hein, et donc si on utilise des vitesses sur des périodes différentes, on ne va pas pouvoir comparer les choses entre elles. Hein. Donc voilà, si on vous pose la question maintenant de savoir pourquoi on mesure des vitesses moyennées sur 3 millions d'années, vous savez, voilà la raison. Alors donc, après cette digression, explication un petit peu longue sur l'utilisation des anomalies magnétiques, voilà ce qu'on en fait. Une fois qu'on a des vitesses, on va reporter ça en fonction de la distance au pôle de rotation. Alors j'ai un autre exemple, là c'est pas l'Atlantique, c'est l'exemple de la dorsale sud-est indienne. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure des vitesses d'ouverture le long de la dorsale. Et on va reporter ça dans un graphique, donc la vitesse d'ouverture est ici. Hein. On va reporter ça dans un graphique qui est donc où l'axe des abscisses, c'est la distance au pôle de rotation qu'on a déterminé grâce à nos failles transformantes. Et qu'est-ce qu'on constate? Que là, encore, une fois encore, c'est pas n'importe comment. On voit qu'on a une augmentation de la vitesse quand on s'éloigne du pôle de rotation. Et puis on voit quand on arrive à 90 degrés, ça se met à rediminuer. Hein. Bon, alors ça c'est. Alors j'ai choisi cette dorsale-là parce que c'est l'Atlantique, c'est plus difficile de voir l'endroit où ça rediminue. Mais cette dorsale sud-est indienne montre très bien ça. Hein. Bon, la figure sera dans le bouquin. Hein. Le choix n'est pas innocent. Tu l'as sous les yeux, Patrick. Donc cette figure vous permet vraiment de démontrer non seulement que la vitesse augmente, mais qu'en plus elle est bien maximum à ce qu'on va appeler l'équateur de rotation, hein, à 90 degrés de la distance du pôle de rotation. Donc on revient, donc vitesse maximale, ça je viens de le dire. Alors bon, il se trouve que cette courbe s'ajuste à un sinus, ça je ne vais pas trop vous assommer de détails trigonométriques, mais... Donc on revient à notre modèle, hein. On avait notre premier élément qui était donné par les failles transformantes qui sont des petits cercles. Deuxième élément, la vitesse augmente donc avec donc le sinus de la distance au pôle, hein, ce qui est matérialisé ici par cette largeur, bon c'est pour en donner une image, hein, du largeur grisée, hein, un petit peu plus importante quand on s'éloigne du pôle. Donc en fait la vitesse de rotation est bien évidemment nulle sur l'axe de rotation. Hein. La vitesse augmente, V2 là est plus grand que V1, etc. Augmente jusqu'à 90 degrés, hein, de l'axe de rotation, et puis de l'autre, quand on continue à s'en éloigner, va rediminuer. Hein. Voilà, donc ça c'est le modèle mathématique très simple qui décrit, hein, donc rotation de deux plaques, hein, rigides sur une sphère. Alors, je ne vais pas vous détailler ça, c'est juste pour vous montrer qu'avec un petit peu de trigonométrie sphérique, l'aide du collègue prof de maths, éventuellement, on peut arriver à faire calculer assez simplement des directions, hein, quand on connaît le pôle de rotation, hein, et la vitesse angulaire de rotation. Alors ça, bon, l'intérêt, c'est bien évidemment de faire l'inverse. Ce qui nous intéresse, bon, on a un modèle qui nous permet de passer d'un vecteur rotation qui est ici, dénoté par oméga, à une vitesse qui est dénotée ici. En fait, ce qu'on mesure, c'est bien évidemment ça, la vitesse. Alors vous avez vu, soit le module, hein, projeté, soit la direction, mais jamais les deux. Hein. Et c'est donc l'ensemble donc ce sont ces relations qu'on va utiliser pour faire ce qu'on appelle un problème inverse, c'est-à-dire connaissant et ayant un ensemble de données, remonter, hein, bien sûr, au modèle, c'est-à-dire à un vecteur rotation, calculer un vecteur rotation à partir de données. Donc, on sait faire ça. Alors, pour l'instant, on était à deux plaques. Ça va? Donc, on sait calculer le mouvement entre deux plaques. Le problème, maintenant, ça va être de... oui, ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc, avec un ensemble de données, donc on peut calculer un vecteur rotation. Maintenant, vous avez vu qu'il y a un nombre supérieur à 2 de plaques à la surface de la Terre. Donc, il va falloir quelque chose de plus que simplement regarder les plaques 2 par 2. Hein. Alors là, c'est une carte. Alors, c'est justement la carte des plaques que j'aime pas, mais c'était parce qu'elle est plus simple, hein, où j'ai donc mis sous forme filiforme les frontières de plaques pour vous montrer que, bah,
enfin, vous en étiez convaincu bien sûr, hein, mais que dès que vous avez plus de deux plaques à la surface du globe, vous avez nécessairement des jonctions qu'on appelle des jonctions triples, c'est-à-dire où vous avez la, ici par exemple, entre la plaque Antarctique, la plaque Australie et la plaque qui s'appelle ici Somalie, hein, vous avez une jonction entre les trois frontières de plaques qui se trouvent être ici trois dorsales océaniques. Hein, donc on appelle ça des jonctions de type alors RRR parce que c'est ridge hein, pour dorsale en anglais, donc trois dorsales. Donc ça, ça forme une jonction triple. Hein. Donc on va voir qu'en fait, que ces jonctions triples jouent un rôle très important dans le modèle. Hein. On sait calculer à partir d'un ensemble de données, par exemple ici sur la dorsale sud-est indienne dont je vous parlais, on sait calculer par exemple le mouvement relatif entre Australie et Antarctique. Bon, on sait faire la même chose entre Australie et Somalie, entre Somalie et Antarctique. Maintenant, est-ce que ces trois vecteurs rotation ont une relation entre eux ? Ben, fort heureusement, oui. Hein. Et donc là, sur l'exemple bon, très simple, hein, donc d'une jonction de trois dorsales, hein, nécessairement, si vous considérez... Alors, on peut faire l'analogie avec le passager dans un train, le piéton dans un train. Si possible, prenez l'exemple d'un train à deux étages, ça marche encore mieux. Hein. La vitesse du piéton dans le train, si vous l'additionnez avec la vitesse du train par rapport au sol, bien évidemment, vous avez la vitesse du piéton par rapport au sol. La cinématique des plaques, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous additionnez la vitesse de cette plaque B par rapport à la plaque A, plus la vitesse de la plaque C par rapport à la plaque B, là, vous obtenez la vitesse de la plaque C par rapport à la plaque A. Hein. C'est relativement trivial. Donc, on a cette relation fondamentale. Donc, ça, c'est la géométrie du système. La somme, hein, alors si le système est rigide, hein, s'il n'est pas rigide, évidemment, si c'est du chewing-gum, les trois plaques, ça ne marche pas. Hein. Mais si les trois plaques que j'ai notées ABC là, sont rigides, eh bien nécessairement, la somme de mes trois vitesses, hein, de plaque à plaque, va être nulle. Hein, ce qu'on appelle un circuit vectoriel, peu importe. Donc c'est la rigidité hein, qui impose cette somme de vitesses nulles. Or, à partir du moment où on prend les vitesses donc, au même point, qui est le point triple, ça implique que la somme des trois vecteurs rotation est nulle. Ça, c'est la relation, enfin, à part celle que je vous ai montrée tout à l'heure, là où il y avait un vague produit vectoriel qui traînait, hein, qui était celui-là d'ailleurs. La vitesse, c'est le produit vectoriel du vecteur rotation avec le... Bon, ça, je détaillerai ça éventuellement un petit peu pour le bouquin, mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça aujourd'hui. Hein. Donc, première relation fondamentale, celle-ci. Hein. La deuxième, sans laquelle on ne peut rien faire, c'est que la somme... des trois vecteurs rotation quand on fait un circuit entre trois plaques. Alors, c'est vrai aussi à 4, 5, 6, le circuit vectoriel global. Si on part d'une plaque et qu'on va de plaque en plaque, si on revient à la plaque de départ, eh bien, au bout du compte, la somme des vecteurs rotation doit être nulle. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème, soit de rigidité, soit qu'on a oublié une plaque, etc. Alors donc c'est ce point qui est extrêmement important, c'est cette notion de fermeture de point triple, et on va voir que c'est ça qui va nous servir à prédire, hein, je vous ai annoncé ça, à prédire les mouvements dans les zones de convergence, c'est-à-dire là où on a seulement la direction mais pas la vitesse, on va pouvoir, grâce à la géométrie des points triples hein, et aux relations qu'on a vues de vitesse sur les points triples, on va pouvoir donc prédire une vitesse dans les zones de convergence. Donc ça, c'est oui, une petite définition. Donc, enfin, un point triple, on dit qu'il ferme, hein, on parle de condition de fermeture, hein, il ferme quand effectivement la somme des trois vitesses est nulle. Donc c'est en partie un test de rigidité. Alors bon, un petit détail près que, par exemple, dans le cas de l'océan Indien, la non-fermeture du point triple qu'on cite historiquement, hein, qui est le point triple de Rodriguez, que je vais vous montrer, peut provenir en fait pas seulement d'un problème strict de rigidité, mais d'un problème de géométrie de la frontière de plaque, hein, ce que je vais vous montrer sur la diapo suivante. Enfin, bon, ce qui est en bleu, c'est ce que je vais vous dire. Hein, donc il y a deux approches, hein, vous voyez, avec la fermeture des points triples, soit on se sert, soit on teste la rigidité hein, en vérifiant que le point triple ferme, soit au contraire, on impose la rigidité, on fait l'hypothèse que c'est rigide, et à ce moment-là, ça permet d'être prédictif. C'est-à-dire, si on connaît le mouvement sur deux frontières, on en déduit le mouvement sur la troisième. Hein, c'est ça tout le jeu. Alors donc ce petit bémol là sur le fait de dire que ce n'est pas strictement un problème de test de rigidité, ça peut être également un problème de géométrie de la frontière. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on ne travaille pas uniquement sur les vitesses strictement au point triple, hein, ça c'est le point triple de Rodriguez, hein, je vous montrais tout à l'heure, donc entre Australie, Antarctique et Somalie. Hein. On ne travaille pas directement sur les vitesses au point triple, évidemment, on aurait une donnée de chaque côté, on n'irait pas très loin. On travaille sur les vecteurs rotation, c'est-à-dire les vecteurs qui sont déterminés à partir des données sur toute la frontière. Alors, si on se trompe dans la prise en compte des données sur notre frontière, eh bien, ça va mal se passer. Et c'est effectivement, tout le monde avait remarqué que ce point triple, lorsque l'on prenait les données sur la sud-ouest indienne, la sud-est indienne, et la dorsale qui s'appelle ici Centrale Indienne et Carlsberg, eh bien ce point triple ne fermait pas. Donc il y a un problème. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y avait dans l'océan Indien ici, équatorial hein, en gros, qu'il y avait toute une zone de déformation, principalement compressive, qui faisait qu'en réalité, quand on inversait les données, hein, je veux dire, quand on utilisait les données pour calculer un pôle de rotation, quand on inversait les données de toute cette dorsale, eh bien, on mélangeait en quelque sorte des torchons et des serviettes. C'est-à-dire qu'on prenait les données ici, très bien, c'est Australie, Somalie, mais en prenant les données qui sont là, en fait, on prenait un mouvement qui n'était pas le bon mouvement, on prenait Inde, Somalie. Or, il y a un mouvement entre Inde et Australie. Donc, alors, c'est vrai que c'est proche d'un test de rigidité, disons, puisque c'est une frontière de plaque ici diffuse, mais si on n'a pas la bonne géométrie de plaque, c'est ça que je cherche à vous faire percevoir, si on n'a pas la bonne géométrie de plaque, eh bien, c'est pas la peine d'essayer de faire un test de fermeture de point triple pour tester la rigidité. C'est que les plaques peuvent très bien être rigides, sauf que si on ne prend pas, les bonnes plaques, eh bien ça se passe mal. Bien, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Alors donc on va passer donc à l'aspect donc prédictif. Hein, après c'est ce long rappel de principe de la cinématique. Hein, comment on va pouvoir utiliser finalement toutes ces bases hein, pour prédire ce qui se passe dans les zones de convergence. Alors, les données dans les zones de convergence, je vous avais dit tout à l'heure, ce sont les séismes. Alors, les séismes, bon, il y a une notion qui est un petit peu difficile à non pas à comprendre, mais disons à faire passer de manière simple, cette notion de mécanisme au foyer. Hein, pour les mouvements dans les zones de subduction, c'est les choses qui se produisent, ça, Serge vous en parlera, dans ce qu'on appelle la zone sismogénique, hein, donc dans un certain nombre de kilomètres de profondeur sur laquelle on n'a évidemment pas accès. Donc c'est une approche indirecte qui est par la sismologie. Hein, c'est l'étude de l'enregistrement des ondes sismiques qui va nous permettre de déterminer comment s'est fait le mouvement, dans quelle direction s'est fait le mouvement. Alors qu'est-ce que les sismologues ont remarqué? Alors ça c'est censé représenter une petite coupe de terre, hein, un petit morceau de terre là, avec un séisme qui s'est produit ici en profondeur. Les sismologues ont remarqué assez vite que les sens d'arrivée des ondes, hein, le sens de la première arrivée, hein, donc vers la station ou s'éloignant de la station, le sens, on appelle ça le premier mouvement, ces affaires-là n'étaient pas distribuées n'importe comment à la surface du globe. C'est-à-dire suivant les stations qu'on considérait, on voyait par exemple qu'on avait les stations dans ces zones-là qui étaient en dilatation, hein, c'est-à-dire le premier mouvement vers le séisme, s'éloignant de la station. Quand on était un petit peu plus loin, on avait toute une zone avec au contraire dans laquelle les stations recevaient le premier mouvement au contraire vers elles, en compression, hein, et que tout ça, ça avait l'air de s'organiser, hein, suivant quatre cadrans. Alors là, c'est toujours en coupe. Hein, alors là, j'ai représenté donc cette. Alors j'ai mis exprès là en italique ce qui n'a pas de réalité physique. Hein, cette notion de sphère focale, c'est on imagine par les. Hein, c'est une représentation en esprit hein, de ce qui se passe au niveau du séisme, hein, où on a donc un plan de faille, quelque chose qui est donc purement imaginaire, qui est le plan auxiliaire, qui est simplement le plan perpendiculaire. Hein, et donc ces deux plans hein, séparent dans l'espace quatre cadrans. Hein, et ce sont correspondant à ces quatre cadrans, hein, correspondent donc ces fameuses arrivées, soit en dilatation, soit en compression au niveau des stations sismologiques. Donc, par la démarche inverse, ça c'est le schéma explicatif, mais en observant, j'ai un exemple après, en observant quelle est la répartition à la surface de la Terre des arrivées en compression et en dilatation, on peut reconstituer ce qu'on appelle donc le mécanisme au foyer, c'est-à-dire en fait reconstituer les deux, la géométrie des deux plans. Alors on appelle ça un mécanisme en double couple. En fait, le sismologue ne sait pas distinguer le plan de faille. Bon, j'ai mis ici le plan de faille, j'ai décidé que c'était celui-là. Bon, on verra fort heureusement dans les zones de subduction qu'en général, on sait lequel a joué. Pas toujours, mais on peut deviner un peu. Je vois Serge qui opine un peu. Donc, j'ai décidé que celui-ci était le plan de faille. En fait, le sismologue, c'est pas du tout. Quand il détermine, quand il voit ses arrivées en dilatation, en compression, tout ce qu'il a, c'est quatre cadrans. Je dois avoir un exemple juste après. Donc là, pour voir les choses un petit peu, là c'était vu en coupe, pour essayer de voir les choses un petit peu plus tridimensionnelles. Voilà comment ça se présente. Ce que je vous montrais précédemment, c'était ça. Donc, je vous ai mis quand même une faille inverse pour que ça ressemble un peu à une subduction. Donc si on regarde ces choses-là, cette fois-ci en plan, ce que vous avez là à gauche, eh bien, les deux plans que vous avez comme ça en coupe, si vous les regardez de dessus, vous les projetez sur une méthode qu'on appelle de projection cyclographique, les deux plans vont se projeter par ces deux cercles. Donc, ça, c'est la représentation de ce qui se passe. Alors, donc, indistinguable. Là, j'ai décidé que ça, c'était le plan auxiliaire, ça, c'était le plan de faille. Mais encore une fois, d'un point de vue sismologique, indistinguable. Donc, ça, ce qui est en grisé, c'est là où on a des arrivées en compression à la station. Donc, ça correspond en fait, en réalité, à l'extension tectonique, à l'extension mécanique au niveau du séisme. Et puis, ce qu'on laisse en blanc, ça correspond donc aux arrivées, au contraire, en dilatation, c'est-à-dire correspondant à la compression tectonique. Ça, on peut réaliser ça en se référant au schéma ici, en fait, où c'est un petit peu l'image. C'est un collègue qui m'a expliqué ça. Il a une image qui est assez physique. Si je donne un coup de poing à personne, mais si je donne un coup de poing à quelqu'un, en fait, moi, je suis en extension, mais la personne le reçoit bien en compression. D'accord ? Donc, extension au foyer, veut dire compression à la station. J'ai trouvé que c'était une bonne image pour se souvenir de la manière dont ça fonctionne. C'est vrai que c'est horriblement confus, parce que quand on parle de compression, ils ne comprennent plus rien. Vous dites que c'est en compression, alors que ça correspond au secteur qui est en extension tectonique. Voilà l'image qui permet de s'en sortir. Donc voilà, on a ce mécanisme au foyer. Alors, bon, par définition géométrique, en fait, le mouvement, alors là, c'est un cas très simple parce que j'ai pris deux failles inverses dont l'intersection est horizontale. Le mouvement est perpendiculaire à l'intersection des deux plans. Et ce mouvement, c'est quoi ? C'est la strie que vous verriez sur un plan de faille sur le terrain, ni plus ni moins. Donc voilà. Alors, j'avais un exemple. Alors, j'ai choisi un séisme récent là, à Hokkaido en septembre dernier. C'est un magnifique séisme de subduction qui s'est produit ici, de magnitude 8 et quelques. Dans cette zone dont vous parlera Serge, je crois, la zone de subduction des Kouriles ici, enfin la jonction de la zone de subduction des Kouriles et du Japon. Alors voilà, les petites arrivées qui ont été vues par les différentes stations et qui permettent de construire donc ce mécanisme au foyer. Alors vous voyez là, l'intersection des deux plans n'est pas tout à fait perpendiculaire. Donc on retrouve ce grisé au milieu, le blanc de chaque côté. Vous voyez que vous avez un plan qui est très peu incliné, qui est celui de la subduction, un plan qui est beaucoup plus incliné, qui est donc probablement le plan auxiliaire. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'était juste pour vous donner une petite idée de d'où sort cette mesure de direction de mouvement grâce au séisme. Donc là, la direction de mouvement, donc elle serait à 90 degrés ici de l'intersection, elle serait comme ça, elle serait donc à peu près nord-ouest-sud-est, donc avec une subduction là vers le nord-ouest, qui est à peu près cohérente avec ce qu'on voit à l'échelle ici. Bon, donc ce sont ces données, et ce sont les seules qu'on a à notre disposition pour, d'un point de vue cinématique, dans les zones de subduction. Alors, le problème, donc, comment déterminer la vitesse de convergence? Alors, c'est là que je reviens à mes points triples. Alors, avec l'exemple classique du point triple de Mendocino, hein, qui est un point triple qui se situe donc à la jonction. Alors, donc, à droite, c'est la plaque Amérique du Nord, à gauche, c'est le Pacifique. Entre les deux, on a une petite plaque qui s'appelle la plaque Juan de Fuca, hein, qui est en fait un reste de la plaque Farallon. Hein, bon. Et on a donc ce point triple, hein, qui est un point triple, vous voyez, qui correspond à la jonction entre ce qui est une faille transformante, hein, la faille de Sant'Andreas, une faille transformante ici, donc entre Juan de Fuca et Pacifique, hein, et la zone de subduction de Cascade, hein, là où on a, bah, je ne sais pas si elle vous parlera du volcanisme de Sainte-Hélène, de Mont-Sainte-Hélène, c'est dans cette région-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme indicateur de mouvement? Bon, on a la faille de Sant'Andreas, on connaît sa direction, on a des mécanismes au foyer dessus, hein, très bien. On a des vitesses d'ouverture sur la dorsale, hein, on sait que c'est 58 mm par an ici, par exemple. Et on a ici simplement des directions de mouvement, hein, pour la subduction. C'est que la subduction de la plaque Juan de Fuca sous l'Amérique du Nord se fait vers le nord-est. Donc, voilà ce qu'on connaît, donc ces différents mouvements. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la vitesse ici? Eh bien, je construis ici un triangle de vitesse. Qu'est-ce que je reporte dans ce triangle de vitesse? Ce que je connais complètement, c'est-à-dire Pacifique, Juan de Fuca, je connais la vitesse grâce aux anomalies magnétiques, je connais la direction grâce aux failles transformantes. Donc, j'ai tout mon vecteur vitesse, hein, complet. Donc, il est là. Hein, donc, c'est mes 58 mm par an suivant cette direction-là. Je construis la direction ici, Juan de Fuca, Nord-Amérique, c'est la subduction de Cascade. Je construis ici la direction en pointillé correspondant à mes directions de ce que j'ai appelé vecteur glissement, hein, de séisme, hein, ou la strie. Et enfin, je construis Pacifique-Amérique du Nord. Hein. Pacifique-Amérique du Nord, c'est quoi? Ben, c'est ni plus ni moins la direction de la faille de Sant'Andreas. Hein. Eh bien, c'est gagné, j'ai un triangle, je connais un côté complètement, et puis je connais deux autres côtés en direction, j'ai plus qu'à dire que l'intersection, ben, elle est là, et donc voilà, j'ai 56 mm par an prédit, hein, en considérant que mes plaques sont rigides, hein, grâce à la fermeture du point triple, je prédis que Pacifique Nord-Amérique, c'est 56 mm par an, ça c'est sur Sant'Andreas ici, je prédis 26 mm par an de subduction ici. Donc le principe est très simple, hein. Ce qui est important, c'est de voir que c'est totalement de la prédiction, il n'y a aucune mesure. Enfin, il n'y a aucune mesure, si bien sûr il y a des mesures, mais la mesure, un des messages forts que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que dans les zones de convergence, en cinématique classique, encore une fois, avant la géodésie, on ne fait que prédire des vitesses, hein. On ne les mesure pas. C'est indirect, en quelque sorte. Alors, grâce à tout ça, eh bien, on arrive à construire, hein, un modèle global. Hein. Alors là, je vous ai montré quelques exemples régionaux. Hein. On arrive à construire un modèle global, alors toujours avec cette carte où j'ai mis les frontières de plaques filiformes, hein, mais tant pis. Bon, là, c'était juste... Alors souvent, on voit souvent des cartes avec des vecteurs, hein, des flèches montrant les mouvements relatifs au niveau des frontières. Moi, j'aime bien cette représentation aussi qui vous montre comment se déplacent les plaques à l'intérieur. Ça donne finalement une meilleure idée. Alors là, en plus, vous voyez que c'est par rapport à l'Eurasie fixe, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vecteur. Hein. Alors vous voyez qu'il y a des plaques qui vont vite, des plaques qui vont moins vite par rapport à l'Eurasie. Hein. Alors j'en profite pour vous attirer votre attention sur quelque chose que je n'ai pas dit, à tort jusqu'à maintenant, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, c'est tout du relatif. Hein. La cinématique, jusqu'à un certain point, on travaille toujours en relatif, on a toujours besoin d'une plaque de référence, hein, pour dire, voilà, le mouvement de la plaque australe n'existe pas ex nihilo. On va le définir par rapport à la plaque indienne ou par rapport à la plaque antarctique, etc. Bon, alors je reviendrai un petit peu sur les interprétations, bon, disons qu'on peut faire un petit peu de l'examen au premier ordre de ce type de carte. Alors, il y aura dans le bouquin des petites recettes de cuisine pour des calculs assez simples, permettent d'utiliser hein, ces modèles pour calculer les vitesses à l'endroit dont vous avez envie. Hein. Donc ce modèle s'appelle, alors bon, c'est un modèle qui est, alors il y en a eu d'autres avant lui, hein, le premier a été publié en 1968 par Xavier Le Pichon, hein, il y en a eu d'autres ensuite en 74, 78, des modèles globaux, donc, alors des modèles qui, dans lesquels il y avait de plus en plus de plaques, hein, le premier modèle c'était 6 plaques, actuellement on en est à 12, plus 4 petites qui ont été ajoutées, on en est à 16. Bon, on peut raffiner, hein, je vous ai montré ça tout à l'heure, on peut commencer à faire de la cinématique sur des petits blocs. Hein. Donc de plus en plus de plaques, hein, on raffine le modèle et puis de plus en plus de données, bien sûr. Alors, un aspect important quand on travaille avec des modèles globaux, hein, qui est lié aussi à tout ce que je viens de vous dire, hein, sur les fermetures de points trip, sur le fait qu'on a, en convergence, on n'a que les directions et pas les vitesses, etc. C'est cette notion de géoèdre qui est une représentation, en fait, des relations, alors un matheux dirait des relations topologiques, hein, entre les plaques. C'est-à-dire, par exemple, de voir qu'entre Amérique du Nord et Eurasie, par exemple, on a, alors quand c'est en très plein, on a des vitesses et des directions. Bon, ça, c'est la dorsale, médio-atlantique, donc bon, on a les anomalies magnétiques, les failles transformantes. Entre Eurasie et Afrique, hein, on a seulement des azimuts. Hein. Eurasie, Afrique, en fait, et on n'en a pas beaucoup, vous voyez, hein, 4, 6. C'est quoi? C'est la zone de fracture de Gloria, hein, qui est à l'ouest de Gibraltar, entre les Açores et Gibraltar. Donc on a certaines frontières de plaques où on a de l'information, alors qui sont celles en convergence, bien évidemment, on a de l'information qu'en termes de direction. On n'a pas l'information en termes de vitesse. La vitesse est prédite. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de frontières où c'est le cas. Bah, toutes les frontières convergentes, Amérique du Nord, Cocos, Caraïbes, Amérique du Sud, alors là c'est plutôt décrochant d'ailleurs. Bon, Nazca sous l'Amérique du Sud, bien sûr. Il manque Cocos sous l'Amérique du Sud. Bref, dans un grand nombre de cas, alors, et dans d'autres cas, on n'a pas du tout de données. Hein. Par exemple, Eurasie-Arabie, on considère que la zone frontière, c'est une zone qui est suffisamment de déformation suffisamment large pour dire que ben, on n'utilise aucune donnée. On n'a rien qu'on peut utiliser raisonnablement pour donner la direction, hein, parce que la zone frontière est trop large. C'est vrai aussi, par exemple, on n'a pas représenté Inde, Eurasie. Pourtant, vous allez me dire, c'est gonflé, c'est quand même l'Himalaya. Pourquoi? Parce que, évidemment, la zone de déformation est très large. Et donc, dans le modèle cinématique instantané Nouvelle-One, les auteurs ont choisi, de ne pas utiliser aucune donnée, parce que si on utilise des vecteurs glissement de séisme, on n'est pas du tout sûr que c'est représentatif, ou alors il faudrait intégrer toute la déformation. Alors, certains modèles commencent à faire ça. Hein, il faudrait donc intégrer toute la déformation sur toute la largeur de la frontière de plaque. Donc, bon, résumé, hein, la vitesse de subduction est prédite. Hein, j'enfonce un peu le clou là-dessus. Hein. Alors, oui, une petite distinction, dans les zones de subduction, où on a donc quand même des indicateurs cinématiques, on prédit la vitesse, mais on a quand même une idée de la direction. Dans les zones de collision, ou ce que Serge appellera peut-être de subduction continentale plus tard, hein, par exemple Afrique, Arabie, Inde, par rapport à l'Eurasie, alors là, on n'a carrément rien. Hein, c'est ce que je viens de vous montrer précédemment. Autrement dit, là, c'est de la prédiction 100%. Alors, prédire à 100% avec un modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on tend à propager les incertitudes. Hein, une petite remarque au passage. Et on va voir effectivement que les mesures de géodésie spatiale, ça pose un certain nombre de problèmes, mais montrent que dans la plupart des zones de convergence, en fait, on trouve jamais ce que le modèle a prédit. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi, mais il y a un problème sous-jacent qui est ce problème de propager les incertitudes. Un petit détail, si j'ai le temps, je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. Toutes les données également n'ont pas le même poids dans le modèle global. Alors, ça, je vais dire juste deux mots. Ce qu'on appelle le poids d'une donnée, hein, alors les Anglais emploient le terme de data importance, c'est l'influence qu'a la donnée dans une solution. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations mathématiques là-dessus, mais donc toutes les données n'influent pas sur le résultat, sur le modèle de la même manière. Et dans le modèle que je viens de vous montrer, là, hein, le modèle Nivel One, sur lequel il y a plus de 1000 données, j'ai reporté ici dans ce petit tableau donc, la proportion, hein, en termes en nombre de données, la proportion des trois grands types de données, hein, donc vous avez CIS, faille direction de faille transformante et vitesse d'ouverture. Donc il y a 2/3 de séisme, 2/3 de données de vecteurs glissement, 10% de faille transformante, un quart d'anomalie magnétique. Par contre, en termes de poids dans la solution, hein, d'influence sur la solution, vous voyez que ce qui compte, c'est essentiellement les vitesses d'ouverture, les failles transformantes. Les séismes, en fait, rentrent très peu dans la solution, bon, pour des raisons qui seraient un petit peu longues d'expliquer, mais en gros, parce qu'il y a une très forte redondance géographique, beaucoup de séismes au même endroit, résultat, ça influe assez peu. Donc, tout ça pour dire que le modèle, finalement, est assez... Le modèle Nivel One est, même dans les zones... Donc, pour la partie qui nous intéresse, hein, les frontières en convergence, même dans les zones de subduction où on a des séismes qui nous donnent les directions, eh ben, ça influe peu sur le modèle. Donc vous voyez que vraiment, l'aspect prédictif du modèle est très important. Donc, oui, ça, c'est quelques points donc, pour reprendre les principaux éléments. Donc, modèle basé sur des données océaniques, mouvement moyen sur 3 millions d'années, peu déterminé par les directions dans les zones de subduction. Hein, donc, un modèle qui est essentiellement prédictif. Oui, je ne sais pas, donc au prix du temps, bon, enfin, j'aille un petit peu plus vite quand même. Mais... Bon, un tout petit cas particulier dont je voulais vous parler, qui, disons, complique encore un petit peu l'affaire, c'est le cas des subductions obliques. Hein. Bon, même si les subductions ont un peu tendance à être relativement perpendiculaires, à la direction du mouvement relativement perpendiculaire à la zone de subduction, il y a quand même pas mal de zones où les mouvements sont obliques. Hein, je pense encore une fois, Serge vous en reparlera. Et où, du coup, l'analyse cinématique devient un petit peu plus compliquée. Alors, je prends l'exemple classique de Java et de Sumatra. Hein. Sous l'île de Java, en Indonésie, vous avez donc la plaque australienne qui passe en dessous. Hein. Là, on est en subduction frontale. Alors, toutes les petites flèches blanches que vous voyez là, alors les points noirs, c'est les volcans, hein, c'est l'arc volcanique. Toutes les petites flèches blanches, ce sont nos directions de glissement données par les séismes. Bon, donc là, vous voyez, c'est à peu près perpendiculaire. Le modèle global, voilà ce qu'il prédit pour Australie par rapport à l'Eurasie. Hein. Il prédit ça. Bon, alors là, c'est en bon accord, les données sont en bon accord avec ce que dit le modèle. Bon, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a constaté systématiquement dès que la subduction devient oblique? On a constaté qu'on a systématiquement, alors deux choses, hein, des séismes qui sont déviés, vous voyez, qui sont un peu plus dans cette direction, hein, plus perpendiculaire que ne l'est la convergence donnée par le modèle global. On voit qu'il y a une sorte de déviation systématique des vecteurs glissement de séisme. Et d'autre part, on constate la présence, hein, encore une fois systématique, hein, c'est le cas à Sumatra, mais c'est le cas dans toutes les zones de subduction oblique, présence systématique d'un décrochement. Hein, alors ici, il est dextre, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette espèce de lanière là, qui est ici, qu'on peut appeler la lanière d'avant-arc, si on veut, qui se déplace vers le nord-ouest, hein, par rapport à Sumatra. Donc un décrochement dextre. Et donc tout se passe, en fait, comme si on parle de partitionnement de la convergence, hein, ce qui est censé expliquer ce petit schéma là. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez décomposer en fait la convergence Australie-Eurasie qui est là, hein, qui est ce vecteur-là, en une composante qui est perpendiculaire à la zone de convergence, donc ça c'est les séismes, hein, c'est le mouvement de la plaque Australie sous la lanière d'avant-arc, donc ce vecteur-là, plus un vecteur qui est Australie, alors ça c'est le bloc de Mentawai, hein, s'il s'appelle comme ça, peu importe, plus le mouvement le long du décrochement. Tout se passe quand le système est oblique, comme si c'était décomposé en un mouvement perpendiculaire et un mouvement parallèle, tout simplement. Alors ça, évidemment, ça complique un peu nos affaires, parce que quand on a nos vecteurs glissement de séisme, on ne peut pas les utiliser directement. Il faut non seulement connaître la direction du décrochement, mais si on raisonne en sorte de pseudo-point triple, hein, puisqu'on a en fait trois plaques, on a deux plaques et une sorte de lanière entre les deux, en fait, il faut connaître la vitesse sur le décrochement pour pouvoir s'en sortir. Et en général, on ne la connaît pas ou on la connaît mal. Voilà. Donc, alors la tendance, c'est que les gens bah, ils disent, bah, dans les zones de subduction oblique, on laisse tomber les données parce qu'on ne sait pas les utiliser. Voilà. Donc, vous voyez, c'est encore des petites choses qui compliquent les affaires. Alors, on va confronter maintenant un petit peu tout ça à ce que dit la géodésie spatiale, c'est-à-dire qu'on va changer d'échelle de temps aussi. Là, on va plus travailler là sur 3 millions d'années. Oui, au passage, vous avez vu, quand on utilise les séismes, là, on est sur quelques dizaines d'années. Donc, je vous avais dit que les données étaient hétérogènes en nature, mais elles sont hétérogènes aussi en termes d'échelle de temps. Donc là, on va passer à une échelle de temps différente, justement, qui est celle de la quelques années, une dizaine d'années. Alors, pour essayer de vous convaincre de ce que non seulement il y a ce problème d'échelle de temps, mais également le fait que on va travailler sur une cinématique qui est plus du tout assise sur les mêmes bases, en quelque sorte, une cinématique qui devient complètement continentale. Ça, c'est la répartition mondiale actuelle des sites de mesure géodésique. Or, peu importe les détails, que ce soit les détails des techniques, soit du GPS, de l'interférométrie, bon, ça, je ne vais pas trop vous en parler. Vous voyez qu'il y a à peu près 3000 sites actuellement de mesure qui sont répartis, alors, pas tout à fait, qui sont répartis, alors, beaucoup dans les zones d'intérêt, évidemment, géologique, de type Himalaya ou des zones intéressantes, ou bien un effet socio-économique assez évident quand on voit la concentration évidemment, en Europe, en Amérique du Nord, voire même en Australie, où ne parlons pas du Japon, où il y a je ne sais plus combien de centaines de stations GPS permanentes, à comparer, évidemment, à des zones qui sont beaucoup moins bien instrumentées, d'où des problèmes, évidemment, d'incertitude, on le verra, dans les mouvements déterminés par géodésie. Mais, bon, tout ça pour vous dire qu'avant, on travaillait sur des données qui étaient là, sur les frontières de plaques. Maintenant, on travaille sur des données qui sont soit à l'intérieur des plaques en géodésie, soit qui sont dans les frontières larges. Et c'est ça qui va nous intéresser. Là où justement, on laissait tomber toutes les données qu'on avait parce qu'on ne pouvait pas les utiliser. Alors, une des raisons du succès du système GPS, juste un mot là, brièvement, puis pour vous montrer quelque chose d'un peu concret, là, parce que je vous ai montré beaucoup de cartes graphiques et autres schémas, une des raisons de l'explosion, je dirais, de la géodésie spatiale en termes d'utilisation scientifique, il y a aussi des utilisations que vous connaissez en termes de navigation, bien sûr, ou voire même maintenant dans les voitures, mais c'est quand même la relative portabilité il faut quand même des engins un petit peu plus élaborés que les petits GPS de poche pour faire de la randonnée, pour faire de la géodésie spatiale. Quand on cherche le millimètre par an, faut quand même des engins un petit peu plus compliqués, mais ça reste des choses qui sont d'un coût relativement modique et surtout extrêmement portable. Aller mesurer un point sur le terrain, ça consiste à aller mettre un repère scellé au ciment ou au soufre après avoir fait un trou dans le caillou, à installer un trépied avec un système de centrage, installer une antenne, brancher un câble sur un récepteur, j'appuie sur le bouton, j'enregistre les données pendant un certain nombre d'heures, plus il y a de données, mieux c'est. Et ensuite, il y a des gens qui font des calculs avec des logiciels très compliqués qui ensuite vous donnent la position d'un point à quelques millimètres. Mais d'un point de vue mode opératoire, on peut aller faire des mesures maintenant dans des endroits extrêmement reculés et de manière assez dense du fait justement du coût relativement modique et de la portabilité du système. Alors, évidemment, ça va être intéressant, ces affaires-là, quand on a beaucoup de mesures. Comme toujours. Alors, un des exemples assez classiques qu'on peut donner, c'est le cas des... Il y a eu énormément de mesures qui ont été faites sur cette région, sur l'Anatolie. Là, vous connaissez donc la Méditerranée orientale, la mer Noire. Et toutes ces petites flèches rouges, là, représentent donc toutes les mesures. Alors, je crois qu'il y a... Oui, c'est essentiellement du GPS. Et il y a quelques mesures également en laser sur satellite, bon, peu importe. Alors, je vous ai déjà dit, la cinématique devient continentale, c'est-à-dire chose qu'on ne pouvait pas faire. Là, on est en plein dans la zone de convergence Afrique-Eurasie, même Arabie-Afrique par rapport à l'Eurasie. Le modèle Nouvelle One, il n'y a rien, il n'y a pas une donnée là-dedans. Là, on peut commencer à visualiser des champs de vitesse, à faire véritablement de la cinématique continentale. Et je pense que vous serez assez facilement convaincu, j'ai pas rajouté dessus, mais que ce mouvement-là, ça ressemble quand même assez fortement à des petits cercles, et on aurait très envie, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, de mettre un pôle de rotation quelque part par ici, pour ce mouvement. Hein. Alors c'est un peu plus compliqué dans le domaine grec, là, en Égée, mais pour l'Anatolie, hein, on sent assez bien ce mouvement de rotation rigide autour d'un pôle situé quelque part vers Alexandrie, pourquoi pas. Hein. Et où d'ailleurs on voit que les vitesses ont tendance à augmenter légèrement hein, quand on s'éloigne. Bon, il faut regarder ça évidemment en détail, hein, lorsqu'on s'éloigne du pôle de rotation. Donc là, on a vraiment cet exemple et sur d'autres, hein, un moyen de tester directement la rigidité des plaques en mesurant à l'intérieur des plaques et non pas en mesurant aux frontières de plaques et en faisant des tests de rigidité via les points triples, comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Là, on teste directement la rigidité. Hein. On peut dire, bah oui, ça, c'est rigide. Les mesures montrent que c'est rigide. Donc ça, c'est un premier grand changement. Alors, ensuite, bon, tout de suite, bien sûr, les gens ont commencé à regarder, à comparer les résultats de ces mesures hein, avec ce qui était déterminé dans le modèle global, donc Nouvelle 1, dont je vous ai parlé. Alors, bon, dans l'ensemble, on a trouvé un assez bon accord. Hein, ça, c'est le cas, par exemple, de la frontière Amérique du Nord-Pacifique. Hein, alors ça, c'est le pôle donné par l'interférométrie, ça c'est donné par le GPS, ça c'est donné par Nouvelle One. C'est pas très loin, vous voyez ce qu'il y a autour là, les ellipses, c'est les incertitudes. Donc tout ça c'est dans les incertitudes, on est content, ça marche. Bon, ça c'est un diagramme un petit peu plus compliqué qui vous montre en fait la vitesse en fonction dans une espèce de coupe. Hein, c'est une espèce de coupe verticale, ça met en vitesse hein, dans cette ellipse d'erreur pour vous montrer que les vitesses sont également en assez bon accord. Alors parfois c'est un petit peu moins bon, mais ça reste encore à peu près dans les marges d'erreur. Alors on peut regarder ça en comparant les pôles, on peut regarder, donc le message c'est ça, hein, les écarts apparemment sont inférieurs aux incertitudes. Hein. Ce qui a tout de suite amené une conclusion un peu surprenante et une interrogation, et de dire finalement, bah, puisque la géodésie nous donne les mêmes vitesses, nous donne la même cinématique, que celles qu'on savait faire avant moyennée sur 3 millions d'années, bah, ça veut dire que les mouvements sont identiques. Les mouvements actuels sont les mêmes que depuis 3 millions d'années. Il n'y a pas eu de changement. Hein. Ou alors, c'est par hasard. Hein. Les mouvements fluctuaient et on se trouve être à la moyenne. C'est possible, hein, par coïncidence. Alors, on verrait bon, que là où justement on a trouvé des désaccords, on peut se poser des questions de savoir si c'est quelle est la nature, enfin l'origine de ces désaccords. Donc, au départ, au début, je dirais, de la géodésie spatiale, on avait tendance à considérer que bon, il y avait un assez bon accord. Donc ça, c'est simplement les comparaisons des vitesses hein, mesurées par la géodésie et prédites. On trouvait des courbes avec une pente de 1, où on considérait que c'était donc l'accord était excellent. En fait, dans le détail, c'est pas vrai du tout. Hein. Il y a des quantités d'études. Là, je vous montre un exemple. Hein. Bon, parce qu'il se trouve que je travaille dessus, donc j'ai les données sous la main, qui est l'exemple de l'Arabie, justement, hein, de la convergence entre l'Arabie et l'Eurasie, qui montre. Alors ça, les mesures sont là. Vous voyez qu'on n'a pas des mesures partout, malheureusement. On en a quelques-unes là. On en a ici en Oman. On a quelques-unes en Iran. On en a ici au Yémen, à Djibouti, qui montrent. Alors ça, ce sont les mesures en noir. En blanc, ce sont les prédictions du modèle Nouvelle One hein, qui montrent que visiblement il y a un ralentissement. Alors là, dans ce cas-là, pour le cas du ralentissement, d'autres auteurs ont montré que l'Inde apparemment également était plus lente que ce que prédisait le modèle Nouvelle One, mais en fait on s'est aperçu qu'il y avait des erreurs dans le modèle Nouvelle One. Bon, nul n'est parfait, hein, il arrive qu'il y ait des erreurs dans les données utilisées, des choses comme ça. Donc ils ont repris leurs affaires. Bon, là dans ce cas-là, c'est absolument pas un problème d'erreur, puisque quand on regarde Arabie par rapport à Afrique et par rapport à Somalie, on trouve que les vitesses que l'on donne par géodésie sur ces dorsales Mer Rouge et Golfe d'Aden sont effectivement à peu près 25% plus lents que ce qu'on mesure avec les anomalies magnétiques. Donc là, on est certain qu'il y a eu un vrai ralentissement. On ne sait pas depuis quand, mais on est certain qu'il y a eu un vrai ralentissement. Donc à peu près 25%, hein, donc de même pour l'Inde. Bon, par contre, l'Eurasie, on a un assez bon accord entre le mouvement de l'Eurasie déterminé par Nouvelle One et les données GPS. Ce qui veut dire au bout du compte que la convergence hein, qui était donc entièrement prédite, hein, on l'avait vu dans le modèle du Vélo-One, la convergence Afrique, Arabie, Inde avec l'Eurasie, hein, qui était totalement prédite. Eh bien, en fait, les mesures montrent que c'est à peu près de l'ordre de 25% plus lent, hein, dans la réalité, alors dans la réalité des 10 dernières années. Hein. Donc, est-ce qu'il y a eu un ralentissement ou est-ce que c'est le modèle qui est faux? C'est ça l'interrogation, quoi. Alors, sauf pour l'Arabie, où là, encore une fois, on est sûr que c'est plus lent par rapport à l'Afrique. Ça, on est certain. Oui, donc sur cette convergence, donc, alors, le problème, donc, vous l'avez vu avec la cinématique classique, hein, c'est que quand on veut avoir le mouvement entre l'Afrique et l'Europe, on passe par un circuit vectoriel, via les dorsales atlantiques. Hein. On n'a pas de données là-dessus. Hein. On met aucune donnée. Les seules données qu'on met, c'est les données sur la transformante, la zone de fracture de Gloria qui est ici. Autrement dit, dans le modèle Nouvelle-One, on a Afrique-Eurasie en passant par l'Amérique du Nord. Hein. Bon, donc on propage des erreurs, on propage des incertitudes. Hein. Alors le bémol, par contre, du côté, vous voyez, c'est un domaine qui est en plein développement. Hein. Le bémol, par contre, du côté de la géodésie spatiale, c'est que la plaque africaine, actuellement, on a encore peu de stations. Hein. Donc on a encore également des incertitudes. Bon, ça, je vais passer là-dessus. Alors, une des choses que permet donc la géodésie spatiale, donc, c'est qu'on peut commencer à s'intéresser maintenant à ce qui se passe dans les frontières de plaques. Hein. Ça, c'est tiré donc d'un article récent donc qui présente un modèle global qui intègre non seulement donc des mesures à l'intérieur des plaques. Hein, donc, c'est tout ce qui est laissé en noir ici. Ça ressemble un petit peu à une des premières figures que je vous ai montrées là avec les zones de frontières en limite, mais là, dans lequel on a, au lieu d'avoir les limites de plaques en grisé, hein, correspondant à ces frontières diffuses, là, au lieu du grisé, on a mis de la couleur. Et la couleur, c'est la mesure par GPS des vitesses, enfin là, c'est le tenseur de déformation, peu importe, ou des vitesses de déplacement. Donc ça, c'est un petit peu comme une révolution en cinématique. Là, on peut commencer à rentrer dans les zones déformées, quoi. Bon, ça, je vais passer sur des chiffres. Bon, donc, des choses plus rapides, des choses plus lentes. Hein, quand on compare la géodésie avec la géologie. Donc, en résumé, donc, ce que je vous ai montré sur l'Anatolie, c'est qu'on peut maintenant tester directement la rigidité. Alors là, on a pas de problème sur les questions d'échelle de temps. Hein, là, on teste la rigidité actuelle. Un bon accord général, hein, mais pose donc la question des accélérations. Hein. Est-ce qu'il y a véritablement des accélérations depuis 3 millions d'années, hein, ou pas? C'est-à-dire, quelle est la part, hein, c'est encore une question. Hein, bon, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais quelle est la part du désaccord entre la géodésie sur 10 ans et Nouvelle-One sur 3 millions d'années qui est due à des erreurs, hein, ou à des problèmes de propagation d'incertitudes dans les circuits vectoriels, et quelle est la part qui est liée à des vrais changements cinématiques depuis 3 millions d'années? Donc ça, c'est un domaine de recherche en plein développement.